Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Jason Balloron podcast, en fait balado 100% soccer du Club École. On est déjà rendu à l'épisode 6 si je ne me trompe pas. Et pour l'occasion, on a le trio habituel, ça va être moi, Doualé Ibrahim, qui va être à l'animation de cet épisode et je suis accompagné d'Olivier Presse-Grelot et Thomas Lafond. Messieurs, comment allez-vous?
Ah, ça va bien. Très content d'être de retour. Ça fait longtemps.
Ouais, moi aussi, très content. Là, il y a beaucoup de choses qui se sont tramées dans le monde du ballon rond récemment. Fait que bien content d'être là avec vous, les boys, pour en parler.
Et malgré tout ce temps-là qui s'est écoulé, Arsenal est toujours au premier de la Premier League.
Bon, ben oui.
Ben, Thomas. Profite-en, écoute. En plus, avec la grosse victoire contre Everton cette semaine, t'as encore plus de raisons d'être heureux.
Exactement.
Surtout après les années de misère qu'Arsenal a eues.
Ouais, puis là, écoute, pour une fois, vous m'écœurez pas. Fait que...
Ben écoute, non,
bravo, man. Arsenal est vraiment très beau à avoir joué, là, fait qu'on n'a aucune raison de t'écœurer.
Non, c'est ça. Fait que c'est... On aimerait ça, nous. En tout cas, moi, puis là, en tant que fan de Liverpool, on aimerait ça que Liverpool joue de cette façon-là, mais malheureusement, regarde.
Qu'est-ce que vous voulez qu'on... Je tiens à dire que la dernière fois qu'on s'est parlé, Liverpool devait être 9-10e, puis là, il est 6.
Ouais, est-ce mais.
Le top 4 est envisageable présentement. Je dis pas qu'il va être fait, mais il est envisageable.
C'est vrai, mais écoute, on va parler de la Ligue des Champions un peu plus tard, mais ça a un petit peu moins bien été dans cette compétition-là. Bon, messieurs, comme vous savez, on a plusieurs sujets à discuter aujourd'hui, puis écoute, on va commencer avec ce qui s'est passé chez nous, en Amérique du Nord. C'est le début de la saison de la MLS et pour l'occasion, c'est également le début de la saison du CF Montréal. Et pour l'occasion, le CF Montréal... était en déplacement du côté de Miami pour affronter l'Atlanta Miami. C'était les débuts de plusieurs joueurs et également le début de Losada comme entraîneur-chef du CF Montréal. Et pour l'occasion, le CF s'est incliné par la marque de 2-0. Messieurs, qu'avez-vous pensé de cette première rencontre CF Montréal? Êtes-vous rassuré ou au contraire, vous êtes un peu inquiet de ce que le CF nous a montré? Je vais commencer avec toi, Ali.
Je te dirais, moi, c'est moitié-moitié parce que on sait, le Sada, il prône un football plus offensif, ce que j'aime bien. J'aime le football offensif dans la vie. Puis, on l'a vu, le côté offensif, le CF s'est quand même procuré plusieurs chances de marquer qu'il n'a pas concrétisé. Ça, c'est ça c'est ça qui est moins bon. Là. Il faut les concrétiser, ces chances-là. Mais le positif, c'est qu'on a eu des chances de marquer durant la rencontre, dès le début de match là, avec Ibrahim, entre autres. Ton cousin Edou, qui s'est bien illustré.
Ouais, mon cousin Loamy,
Et c'est ça. Ce qui a moins bien été, c'est vraiment la couverture défensive. Le deuxième but, le gars était seul au deuxième poteau et a même eu le temps de reprendre son ballon arrêté sur la ligne de but par Piet pour le remettre. C'était Borgelin, si je ne me trompe pas, là, qui a marqué le deuxième but de Miami. Ensuite, on a. Oh, je ne sais pas si vous entendez ça, mais c'est fort. Bref. Sinon, il y a eu le premier but sur corner, voilà, puis la couverture défensive était très bof. Donc, mi-figue, mi-raisin, je te dirais, d'où, là.
Ouais, je suis pas mal du même avis que toi là-dessus, là. Je vais laisser Thomas continuer, là, mais parce que je te suis vraiment là-dessus, mais vas-y, Thomas.
Ouais, écoute, je suis pas mal d'accord. Honnêtement, je dirais pas que je suis inquiet. Mais c'est pas encourageant ce qu'on voit. La couverture défensive a été défaillante pas mal tout le long de la partie. Et en sportif aussi à l'attaque. Je me rappelle en début de match, je pense que c'était Kyoto. Là. Écoute, je me rappelle plus ou moins de ta rencontre, c'était quand même une semaine. Mais je pense que c'est Kyoto qui a manqué une chance en or en début de partie qui a vraiment changé le momentum du côté du CF. Là. Oui. Puis je pense que ça a été un peu l'histoire de la rencontre. Ça m'a joué contre Austin, je ne me trompe pas.
Oui, je pense que c'est ça.
Pour demain. Donc ça va être des adversaires assez importants qui sont rendus, je pense, en finale de l'Ouest l'an passé. Donc écoute, ça va être un beau défi.
Ouais, clairement. Mais écoute, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment eu un manque d'opportunisme du côté de CF Montréal qui, clairement, aurait pu changer le cours du match. Mais malheureusement, ça s'est terminé par une défaite. Puis en même temps aussi, c'est vraiment rare que le CF réussisse à remporter le premier match. Surtout que le CF, il faut le rappeler aux gens, commence toujours à l'extérieur en raison à raison de l'hiver québécois, là, c'est pas compliqué. Là. Ouais. Le Stade Saputo et le Stade Olympique ne sont pas prêts pour accueillir encore des matchs en MLS à cette année d'année. Surtout que cette année, ça a commencé un peu plus tôt. D'habitude, ça commence début mars, mais là, ça a commencé fin février, une semaine de différence. Est-ce que c'est vraiment ça qui va changer, la chose? Non, mais quand même, il faut mentionner que oui, il y a des petites inquiétudes, mais c'est très rare que le CF se débrouille bien, surtout lors des deux, trois premières rencontres de la saison. Là, fait qu'il n'y a pas vraiment d'inquiétude à y avoir par rapport à ça. Puis aussi, moi, je voulais vous parler de ça, mais aussi, non seulement Pentemis s'est blessé puis il va probablement rater 6 semaines, mais aussi, juste la situation des gardiens de but, moi, je trouve ça extrêmement alarmant. Là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, je trouve ça un peu inquiétant.
Ben, le fait que Pantémis soit blessé, c'est sûr que c'est pas surtout au premier match de la saison, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Mais je suis quand même content pour Jonathan Sirois qui va avoir enfin une chance de prouver ce qu'il peut faire jusqu'au retour de Pantémis. Là, c'est sûr que si on était vraiment malchanceux et Sirois se blesse, là, ça va vraiment pas. Là, c'est Ketterer, si je ne me trompe pas, là, qui est le troisième.
On ramène Tevantia.
Ouais, c'est sûrement, écoute. Mais je pense, j'ai bien hâte de voir ce que Sirois va offrir. Il y en a plusieurs qui le comparaient un peu avec la situation de Maxime Crépeau, qu'on ne lui laissait pas sa chance à Montréal, puis que, voilà, on le perdrait, puis il irait faire la pluie et le beau temps ailleurs. Donc là, si on lui permet d'avoir sa chance-là, il peut nous surprendre. Et peut-être, éventuellement, s'il va très bien compétitionner pour le poste numéro 1 avec Pantémis. Fait que moi, je pense que c'est une belle opportunité pour Sirois quand même.
Ouais, vraiment, je pense que c'est ça que je m'en allais dire. Il y a 6 semaines pour faire ses débuts professionnels, je pense. À ses débuts à MLS, du moins.
Ouais,
MLS. Donc ça, il va avoir une bonne chance de montrer ce qu'il peut faire. Puis, honnêtement, si on peut avoir un jeune de quartier, ça peut être que positif pour le club.
Non, clairement. Ouais, puis, écoute, aussi, moi, je trouve ça le fun parce que là, j'ai vraiment l'impression que cette saison, on va plus voir des joueurs issus de l'académie jouer en équipe première. Puis, on l'a vu aussi avec Saliba qui, moi, j'ai trouvé vraiment eu un bon premier match au milieu de terrain du CF. Ça va vraiment faire du bien de voir des jeunes joueurs aussi de l'académie jouer à l'équipe première. Puis écoute, Sirois, je crois qu'il est seulement âgé de 21 ans, si je ne me trompe pas. C'est ça, ça va être intéressant de voir plusieurs jeunes pousser à l'équipe première. Puis écoute, on l'a vu l'an passé avec Ismaël Koné, puis on l'a vu son ascension. Donc moi, j'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec Sirois. Puis écoute, en parlant de Saliba, vous avez pensé quoi du premier match de Saliba? Ben, c'était pas son premier match avec le CF, mais c'est quand même un premier match titulaire pour lui cette saison.
Ouais, ben j'ai bien aimé. Il était sorti après 45 minutes cependant, et ça m'a surpris un peu parce que, comme tu as dit, il avait connu quand même un bon match. Des erreurs, c'est sûr, là. Mais j'ai bien aimé. Je pense que, tu sais, avec Miljevic blessé, puis qu'on n'a vraiment pas de personne à part Sean Rhea et lui en poste de 10, Miljevic quand il va revenir. Ça reste un trou dans l'effectif. Là. J'aurais vraiment aimé qu'Olivier Renard aille chercher quelqu'un qui puisse remplir ce trou-là. Et Sean Rhea, Saliba, Miljevic puissent le combler de temps à autre pour les fins de match ou en rotation. Mais d'avoir seulement que des jeunes qui puissent remplir ce poste-là, je trouve ça très inquiétant. Mais quand même, Saliba et Rhea ont tous deux joué là, dans le dernier match. On bien fait, donc pourquoi pas. Peut-être qu'ils peuvent nous surprendre et être de bons titulaires. Là. On sait pas.
Moi, personnellement, écoute, il m'a pas marqué. Puis honnêtement, je ne me rappelle plus vraiment de sa performance. Donc, écoute, on va voir en fin de semaine à Houston.
Austin.
À Austin, oui.
Ça ressemble.
Ouais, je sais, c'est mélange. Mais je vais pouvoir donner peut-être une analyse plus approfondie de sa performance.
Ouais. Écoute, c'est. Mais reste que Reste que quand même, c'est encourageant de voir les 45 premières minutes de Saliba cette saison. Puis ouais. Écoute, avec
les blessures, la bonne entrée de Villa aussi. Là.
Ouais, puis l'entrée de Villa aussi. Bon, je m'en allais à parler aussi. Villa aussi, lui non plus n'a pas eu beaucoup de temps du jeu, si je ne me trompe pas. Mais il est quand même prometteur, je trouve, le jeune Villa. Là.
Oui, il a participé à l'offensive pas mal là, en fin de rencontre et il aurait pu avoir une passe décisive, même je ne me rappelle plus c'était sur quelle action exactement, là, mais il a bien fait offensivement. C'est un très faible échantillon pour le moment, mais on peut être. Il y a plus de points positifs que négatifs à la performance des deux. Puis je voulais parler aussi de Aaron Herrera, défense latérale. C'est clairement pas Alistair Johnston, surtout pour le volet défensif. Parce que Johnston, honnêtement, était un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur du CF Montréal l'an dernier. Mais Herrera, quand même, a délivré de bons centres. Et c'est quand même un latéral de grande qualité en MLS. Donc, je pense qu'il peut faire la job, mais ça reste que la perte de Johnston va faire très mal. Même si Herrera peut le remplacer à certains niveaux, là, particulièrement offensivement, qui est capable de délivrer de bons centres. Mais défensivement, ça va être très difficile.
Ouais, ben écoute, en même temps, la perte de, on savait que la perte d'Alistair Johnston allait faire vraiment mal au CF Montréal. Puis, ils ont été chercher une police d'assurance, disons-le, en Herrera. Moi, j'ai vraiment aimé, perso, voir les débuts d'Herrera. C'est sûr que c'est un premier match, fait qu'il reste beaucoup de choses à travailler de son côté. Mais, comme tu l'as dit, déjà, ses centres, moi, je trouve ça extrêmement rassurant. Moi, je trouve que c'est quand même un bon défenseur latéral pour la MLS. C'est ça, parce qu'il était Alistair Johnston au point qu'il était rendu. On l'a même vu pendant la Coupe du Monde. Alistair Johnston est peut-être rendu trop fort pour la MLS. Donc,
Il fait bien en Écosse, la preuve.
Oui, c'est ça. Fait, moi, je pense qu'il est rendu. Il fallait passer à autre chose avec Alistair Johnston. Puis écoute, déjà que Cameron Miller est encore là, c'est un miracle. Donc, on verra pour la suite des choses, Herrera. J'avais deux dernières questions à vous poser. Là, on va parler de Apple TV parce que c'était quand même les débuts de Apple TV qui est rendu, partner numéro un, disons-le, de la MLS. Vous avez pensé quoi de la transmission d'un match d'Apple TV? Ali, je vais commencer avec toi là-dessus.
Ben ouais, moi honnêtement, j'ai trouvé l'image de mauvaise qualité là, à ce qu'on avait la saison dernière avec TVA Sport. Là. C'est ça. C'était la caméra, non seulement pour l'image en tant que telle, mais aussi l'angle de vue, c'était pas super tant qu'à moi. Et j'ai vu un tweet de Nilton George aussi cette semaine qui disait que les autres matchs qui était diffusé, je pense, avant le CF Montréal, était de meilleure qualité. Fait que ça a l'air qu'on n'a pas la même constance niveau de la transmission de l'image pour chaque match de la MLS, ce que je trouve fâchant, là, honnêtement. Là. Ça devrait être la même qualité partout. Donc, je suis déçu, honnêtement. Là. Puis en plus, là, avec toutes les questions d'abonnement, au moins, on a l'entente avec RDS qui fait en sorte qu'on a du contenu francophone. Puis, on a même engagé des commentateurs francophones pour Apple TV, c'est vrai. Fait que ça, c'est un bon point positif. Là. Bravo à Apple TV pour ça. Mais l'image, j'ai été déçu. Là.
Mais pour ce qui est de qualité d'image, c'est peut-être juste à cause mettons, du stade Inter Miami ou whatever, parce que c'est par exemple, le Canadien, quand il est à Calgary ou en Floride, l'image est tout le temps ordinaire un peu. C'est peut-être à cause du stade ou de comment c'est fait.
Peut-être, mais à ce que je me rappelle, l'image était bien correcte. Elle était la même à presque tous les matchs MLS l'an dernier. Là, mais c'est peut-être moi qui me trompe aussi. Là.
Ouais, mais
de ce que j'ai vu pour les autres matchs, après la présentation sur Apple TV, mettons, les avant-matchs, puis la demi était très bien faite, très bien réussie. C'est très professionnel comparativement, mettons, sur d'autres réseaux américains. Ça, c'est un plus. Mais c'est sûr que, tu sais, toute histoire d'abonnement et tout, c'est peut-être pas la meilleure façon d'aller chercher des fans, quoique il y a de plus en plus de jeunes de jeunes femmes de notre démographie.
Voilà, qui... marche pas.
Oh, on va l'avoir à un moment donné. Qui se sent plus des services de streaming. Donc, peut-être que c'est la voie du futur pour la MLS.
Ah, mais t'as raison, t'amènes un super de bon point, en fait, avec l'arrivée, en fait, la montée depuis plusieurs années du streaming. Écoute, nous trois même, on est quand même des personnes qui utilisent beaucoup des liens streaming pour regarder de nombreux matchs de plusieurs événements sportifs. Et écoute, moi, je trouve que le numérique est de loin la voie que les médias devraient utiliser pour le sport, pour tout en général, là, parce que c'est vraiment là que tu vas chercher la plus importante audience et celle du futur, disons-le. Puis, écoute, dernier point avant qu'on passe à l'Europe. Les boys, petite prédiction pour le match qui s'en vient à Austin. C'est quand même la première fois que le CF va se déplacer du côté d'Austin. C'est quoi vos attentes pour cette rencontre-là? Tom, je commence avec toi.
Ben, je pense que le CF va avoir un bon match. Il va rester compétitif toute la rencontre. Je m'attends à une nulle ou une victoire serrée contre Austin.
Ali?
L'important, je pense, dans ce match-là, ça va être de concrétiser ces occasions du côté de Austin. Et mais quand le premier match contre la nouvelle équipe, là, Saint-Louis 3-2. Saint-Louis, je m'attends pas grand-chose d'eux vraiment. Là. Donc, il y a peut-être des points à aller chercher de ce côté-là. Là. Si on perdu contre Saint-Louis, ils sont peut-être instables, peu en confiance. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire du côté de Montréal. Je pense qu'une nulle serait très envisageable, un 2-2, tiens.
Écoute, moi, je pense que ça va finir... Bon, écoute, vous allez me dire que je suis poche, mais moi, je pense que ça va terminer 0-0. Je pense que les deux équipes vont pas marquer dans cette rencontre-là, puis ça va être un maigre match nul, malheureusement. C'est ma prédiction pour cette occasion, pour ce match-là. Mais écoute, moi, je trouve que c'est un match où que le CF n'aura pas le choix d'expérimenter certaines choses. Écoute, déjà, Sirois risque d'être devant les buts pour le CF, voir plusieurs jeunes joueurs évoluer au milieu de terrain. Donc, écoute, c'est un match, je pense que ça va être un match où on va peut-être découvrir de nouvelles choses. Peut-être qu'on va être rassuré, peut-être qu'on va être encore plus inquiet, mais je trouve que ça va être un match qui va être peut-être révélateur, un petit peu plus révélateur que le premier match. Mais malheureusement, ouais, je vais aller avec un match nul de 0-0 pour cette rencontre à Austin. Bon, messieurs, allons du côté... on va commencer avec le fameux FIFA de Best. C'était la cérémonie de la FIFA qui récompensait les meilleurs joueurs au monde. Bon, je vous le cache pas que je trouve que c'est extrêmement incohérent cette cérémonie cette remise de trophée. Déjà, je vais commencer là-dessus. Pour expliquer aux gens... FIFA The Best existe depuis seulement 6 ans, je pense, si je ne me trompe pas, depuis 2017. En fait, avant, FIFA avait les droits du Ballon d'Or, mais maintenant, c'est France Football qui a les droits du Ballon d'Or. Donc, ils ont décidé de créer un trophée très similaire, une cérémonie très similaire au Ballon d'Or avec le fameux FIFA The Best qui récompense les meilleurs joueurs au monde. Et pour l'occasion, il y avait plusieurs grands joueurs qui ont été récompensés. On peut penser à Lionel Messi ou même Kylian Mbappé aussi qui ont été récompensés, surtout pour leur Coupe du Monde. Mais la raison pourquoi je dis qu'il y a eu des incohérences, la première, on avait su quelques heures avant la cérémonie qu'il n'y avait aucun joueur du Real Madrid qui allait se présenter. Et Carlos Ancelotti aussi n'allait pas se présenter. Donc, déjà là, on s'en doutait que le Real Madrid n'allait peut-être pas être récompensé. Donc, ça nous laissait une petite idée de savoir comment la soirée allait se dérouler. Puis, finalement, Lionel Messi a été récompensé en étant nommé le meilleur joueur cette saison, selon le FIFA The Best, le meilleur joueur de la FIFA, en terminant premier. Et le plus fou dans ce tour-là, c'est que Kylian Mbappé a terminé deuxième et Karim Benzema, qui a remporté le Ballon d'Or, qui a eu une saison incroyable en 2022, a terminé troisième derrière ces deux joueurs-là. Benzema qui s'est fâché sur ses réseaux sociaux, s'est exprimé son mécontentement face à sa troisième place de FIFA The Best. Et l'autre incohérence également aussi que j'ai remarqué, c'est celle de la remise du meilleur gardien de but. C'est Emiliano Martinez, gardien de but de l'Argentine et gardien de but d'Aston Villa, qui a remporté le titre de meilleur gardien de but de la FIFA. Mais le problème, pourquoi je trouve que c'est une incohérence, c'est parce que quand on regarde le 11 type de la FIFA, ben c'est Thibaut Courtois qui est le gardien de but partant de l'équipe type et non Emiliano Martinez. Donc, il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu récompenses un gardien de but pour une Coupe du Monde où il a été extraordinaire, mais tu ne récompenses pas en le mettant dans cette équipe 11 puis tu décides de récompenser un autre gardien de but. Moi, je trouve ça déjà assez problématique comme situation. Bon, au moins, c'est l'entraîneur-chef de l'Argentine qui a remporté le titre de meilleur entraîneur, Lionel Scaloni, qui, à mon avis, le méritait à 100%, surtout avec le parcours de l'Argentine, avec la série d'invisibilité.
Ouais, Scaloni, ouais.
C'est 100% mérité devant Carlo Ancelotti et Pep Guardiola. Peut-être que Thomas va dire que Mikel Arteta va peut-être
l'avoir. Ah, non.
Pas de suite.
C'est en 2023, ça.
Ouais, peut-être en 2023, qui sait. Mais je voulais avoir votre opinion là-dessus parce que moi, je trouve que, en fait, je trouve que non seulement il y a des incohérences, mais je questionne la pertinence de cette cérémonie-là.
Mais ben, totalement. Que,
ouais. Ça ne devrait pas avoir lieu, là.
Ben.
Attends, c'est important ici. Je dis c'est en faux.
Ok, ben je vais y aller, ça te dérange.
Vas-y, pas. Vas-y.
Écoute, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'incohérences, puis honnêtement, je pense qu'il y a surtout de l'indifférence du côté de la communauté du soccer. Personnellement, je savais même pas que ça existait avant que tu m'en parles cette semaine. Puis oui, je pense qu'il y a eu beaucoup de recency bias. Martinez mérite amplement son titre de meilleur gardien de la Coupe du Monde, mais de le mettre au-dessus de Courtois comme meilleur gardien de l'année au complet, non, tu sais, Aston Villa et l'an passé n'a pas été écœurant. Ils ont terminé quoi, 10e? Même plus cette saison, c'est un peu la même chose. Honnêtement, c'est... Tandis que Courtois a été probablement la raison principale pourquoi Real Madrid a battu Liverpool en finale de la Ligue des Champions et qui a connu une excellente saison également. Tu sais. Donc je pense que ce prix-là, c'est juste pour que la FIFA ait quelque chose à donner. Mais honnêtement, je pense qu'il faut y accorder beaucoup d'importance.
Ali?
Moi, je suis totalement d'accord avec vous, les gars. Incohérence, c'est le mot. Moi, ce que je trouve le plus incohérent, justement, c'est la période qui inclut pour ce prix-là. C'est comme si tu nous l'avais dit, d'où c'est de août 2021 à décembre 2022. C'est beaucoup trop long comme période. Ça devrait être, tu sais, le Ballon d'Or maintenant, c'est rendu sur une année. De soccer complète. Ça, c'est déjà mieux. Là, Benzema a gagné, je pense, parce que lui, c'était compris entre août 2021 et juin 2021 environ. Ça fait du sens. Là, qu'on aille de août 2021, qu'on fasse une saison complète, qu'on recommence une autre saison et qu'on arrête la période d'inclusion à la Coupe du Monde, décembre 2022, c'est beaucoup trop long. Il y a beaucoup trop de compétitions qui sont prises en compte. Donc là, ça fait que t'as un Benzema qui mérite amplement de l'avoir, qui a gagné son Ballon d'Or, mais qui n'était pas à la Coupe du Monde. T'as Messi et Mbappé qui ont une Coupe du Monde absolument folle. Donc là, eux ont beaucoup d'attention juste pour cette période-là de la Coupe du Monde. Ça fait que c'est beaucoup trop incohérent, de un. Ensuite, t'as les joueurs qui votent, ça, pour moi, et les entraîneurs. Pour moi, c'est un non-sens. Les joueurs ne sont certainement pas assez bien informés de toutes les compétitions dans le monde. Ils suivent tellement pas leur propre championnat comme il le faut. puis ils ont le droit, là, c'est leur vie. Fait que, tu sais, de voir les votes de Mohamed Salah, là, qui est un joueur que j'adore, là, mais qui a voté pour Vinicius Junior en premier, suivi de De Bruyne et Hakimi. Ils n'ont pas connu des mauvaises saisons, là, mais aucun de ces joueurs-là devrait être en haut de Benzema, Mbappé ou Messi pour leur saison. Là. Fait que c'est des votes, les votes des joueurs. C'est pas pertinent selon moi parce que ça vote pour leurs amis. Messi qui vote pour Neymar en premier. Donc, le Ballon d'Or, si je me trompe pas, c'est seulement des journalistes qui votent. Même s'il y a beaucoup de choses à déplorer du Ballon d'Or, c'est déjà mieux comme système de vote que des joueurs et des entraîneurs qui sont biaisés, qui votent pour leurs amis, qui ne sont pas au courant des prouesses de tous les joueurs partout en Europe. Donc, ouais, FIFA, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, c'est FIFA de best. C'est tout simplement pour que la FIFA aille son propre prix. Puis, personnellement, je ne l'ai presque pas suivi. Puis, je me fous un peu de ce prix-là. Parce que, ouais, c'est complètement incohérent.
Ouais, puis écoute, un autre détail aussi que je voulais mentionner. Tu as parlé de Vinicius. Si on regarde le classement, si on regarde les votes pour l'élection du meilleur joueur. Imaginez-vous donc, Cristiano Ronaldo et Neymar ont terminé en avant de Vinicius. C'est pour vous dire à quel point il y a des grandes incohérences dans ce vote-là. Puis tu sais, Hakimi, qui a eu une excellente Coupe du Monde avec le Maroc, se retrouve dans je pense qu'il a fini 5 ou 6e dans le vote. C'est comme.
Tu sais, à part sa Coupe du Monde, Hakimi, ça n'a pas été si grand que ça. Là,
fait
que,
non, vraiment.
Le fait que les joueurs votent, déjà là, ça l'enlève tellement de pertinence.
D'ailleurs, parlant d'Hakimi, est-ce qu'on en parle de ce qui se passe présentement?
Ben.
Vas-y.
Vas-y.
Ben, il est accusé officiellement. En fait, sa saison, sa carrière est en jeu. Il est accusé officiellement de viol à Paris. Écoute, on va voir ce qui va se passer sur une place sportive. Ben, est-ce que ça va être une situation un peu comme Mason Greenwood, vous pensez? Donc, c'est une passe sportive, je parle.
Écoute, on verra qu'est-ce qui se passe. Vas-y, Ali.
Tu m'apprends ça, j'étais même pas au courant, mais oui, on va avoir plus de débats. Mason Greenwood, il y a clairement n'aura plus aucun lien avec lui, là, il ne lui permettra pas d'avoir une chance parce que, tu sais, les accusations qui ont été retirées, probablement parce qu'on a donné de l'argent pour que ces personnes-là se taisent. Mais je pense qu'il y a des extraits audio là, de Mason Greenwood. Là.
Il va avoir un enfant avec cette fille-là plus tard cet été.
Ah, c'est ça. Ah, il y a ça aussi là-dedans. Mais ouais. Mais tu sais, c'est parce que c'est plus qu'une victime de un, je pense. Là. Si je me rappelle bien.
Écoute, je ne me rappelle plus, mais je ne me rappelle plus exactement. Oui. Mais en tout cas, une de ces filles-là, il va avoir un enfant avec.
Et le point, c'est que oui, il y a ça, mais aussi, c'est ces victimes-là qui ont retiré les accusations alors qu'on était en plein procès et que ça se dirigeait. Tu sais, il y avait des extraits audio là, de lui. Là. Fait que ça se dirigeait vers une inculpation. Fait que bref, on va attendre de voir les détails pour Hakimi, mais ça sent les mal. Là.
Ouais, ben, je pense que je vais suivre Valy là-dessus. C'est des accusations pour l'instant, puis il faut faire vraiment attention avec ça, là, parce que c'est vraiment juste des accusations. Il n'a pas encore été reconnu coupable de rien, et puis peut-être qu'il est innocent. Donc, faut vraiment attendre l'arrivée d'autres détails pour vraiment mieux analyser la situation. Mais c'est sûr que c'est problématique, là, encore une fois. Là, c'est très dangereux, puis écoute. Ce serait dommage pour Hakimi, mais ce serait 100% mérité si sa carrière est compromise à cause d'un acte criminel. Ben oui. Là, donc, on verra ce qui se passe, mais pour l'instant, écoute, moi, j'en avais entendu parler, mais c'est juste que j'ai pas assez de détails pour vraiment analyser correctement, surtout dire les bonnes choses pour cette situation-là. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour le cas d'Hakimi. Puis écoute, Messi, meilleur joueur de tous les temps, on dirait, hein, de la façon que la FIFA le récompensé. Est-ce que vous pensez que la réaction. Attendez, vous allez comprendre
On a eu ce débat-là, d'où.
Ouais, on a déjà eu ce débat-là. Mais parce que je voulais aller vers Benzema. Juste pour finir sur cette discussion-là, sur la FIFA de Best. Bon, Benzema s'est fâché sur les réseaux sociaux. Clairement exprimé son mécontentement face à ce fait-là. Est-ce que vous pensez que la réaction de Benzema est justifiée ou non? Je vais commencer avec Tony.
Ben écoute, des célébrités qui se fâchent, que ce soit dans le monde du soccer ou autre, qui se fâchent, il a le droit, là, c'est totalement son droit. Comme je l'ai dit, moi, c'est un prix comme que je me fous pas mal, le FIFA de Best. Là, donc, j'ai suivi ça à distance, là, les Benzema qui est mécontent. Là, mais est-ce qu'il a le droit et c'est justifié? Oui, il mérite pas d'être. Il a fini quoi, troisième?
Ouais.
Si on inclut toute cette période-là, il finit pas d'être troisième. Mais le problème en tant que tel, c'est pas vraiment ça. Pour moi, comme je l'ai dit, c'est juste la période qui est trop longue, là, août 2021 à décembre 2022. Il y a tellement de choses qui sont prises en compte. T'sais. Si tu prends jusqu'à la Champions League, c'est clairement Benzema et ça a le ballon d'or. Mais ensuite, la Coupe du Monde change tellement de choses et Benzema n'était pas là. Donc, c'est tellement juste difficile à calculer qu'est-ce qui vaut plus, qu'est-ce qui vaut moins dans ces votes-là. Puis écoute, Benzema, il y a des joueurs, des entraîneurs qui votent pour leurs amis. Fait, pense à autre chose. Là, puis tu as eu le ballon d'or. Fait, c'est ça. Mais en même temps, je comprends qu'il soit pas content. Mais bref, c'est tout simplement pas une compétition qui est importante pour moi. Là.
Ouais, c'est la même chose de mon côté. Il a le droit d'être déçu, mais en même temps, est-ce que c'est pas un prix prestigieux comme le Ballon d'Or? Si, mettons, il a terminé troisième au Ballon d'Or avec la saison qu'il a connue, là, qui, je peux comprendre, mais FIFA t'es baisse, on s'en fout un peu. Donc, c'est ça.
Bon, écoutez, messieurs, c'est assez catégorique. Je pense que on s'en fout de ce trophée-là. Donc, on va passer à autre chose. Bon, là, parlons de la compétition, la groupe aux grandes oreilles, la Ligue des champions. C'était déjà le retour de la Ligue des champions et surtout le début des matchs allés des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Dans une semaine, si je ne me trompe pas, c'est les matchs retour qui vont avoir lieu. Puis, on va revenir sur les matchs allés. De la Ligue des champions. Puis écoute, je pense qu'on va commencer par le match le plus intriguant et le plus intéressant de toutes ces rencontres-là. Bon, ça va peut-être faire un peu mal, mais on va parler du match aller entre Liverpool et le Real Madrid qui avait lieu du côté d'Anfield à Liverpool.
Début de match assez... de tout.
Mais écoute, je vais juste finir là-dessus, puis après ça, Thomas, tu pourras dire qu'est-ce que t'en penses. Mais déjà, il faut savoir que Liverpool avait probablement commencé le match de la meilleure des façons en menant 2-0 après 14 minutes de jeu et notamment grâce à une bourde de Thibaut Courtois. Mais par la suite, 5 buts sans riposte de la part du Real Madrid, dont une autre erreur cette fois-ci de Alisson qui a offert un but à Vinicius. Et la rencontre s'est terminée par la marque de 5-2. Tom? Vas-y, je te laisse t'exprimer cette rencontre.
Ben écoute, tu l'as dit, Liverpool qui a très bien commencé le match, il faut redonner ça, mais sont complètement effondrés. En fait, les deux gardiens ont commis des erreurs assez douteuses. Courtois, je pense que c'est sur le but de Nunez, je ne me trompe pas, qui a mal jugé son ballon. Puis Becker, écoute, c'est pas fameux non plus. Mais c'est Liverpool qui continue sa saison difficile. Il faut dire qu'en même temps, Real Madrid en 8e de finale, c'est pas le match-up idéal. Mais 5-2, écoute, c'est une performance à oublier. Puis c'est presque une élimination automatique. Là. Donc, ils ont l'occasion de se reprendre au retour. Mais je pense que c'est à Bernabeu, le retour, ouais. Écoute, ça va être très, très, très difficile. On sait jamais avec Liverpool. Surtout cette saison qui peut sortir la meilleure des performances comme la pire.
Ouais.
Ali?
Ben, écoute, c'est dans la même lignée que ce que vous avez dit, là. Je pense que la première mi-temps de Liverpool était très bonne. C'était seulement 2-1 après la première mi-temps. Jurgen Klopp l'a même dit en conférence de presse.
C'était 2-2.
C'était 2-1. La Militao a compté à 47e.
Ouais, mais Vinicius avait doublé. Tom a raison, c'était 2-2 après 45 minutes.
Ah oui, OK.
Ouais, c'était 2 minutes après 30 minutes.
Ah oui, 21-36, ouais, excuse. Ouais. Mais quand même, Jurgen Klopp avait dit en 2-2 ou 2-1, peu importe. Jurgen Klopp a dit en conférence de presse que la première mi-temps de ce match-là, c'était une des meilleures de Liverpool, ce que je suis assez d'accord. Là. Ils ont marqué vite. C'est sûr que là, ils ont profité. Vinicius a marqué un super début durant cette mi-temps-là aussi. Mais je pense que, notamment les premières minutes de Liverpool, ça a très bien été. On a imposé notre soccer au Real. Mais ensuite, c'est le Real, le deuxième mi-temps, la chaîne est complètement débarquée pour Liverpool, puis c'est le rouleau compresseur du Real qui est venu. Puis ce rouleau compresseur-là, du Real Madrid, on l'a vu lors de la dernière Ligue des Champions, il peut ressortir n'importe quand. T'es jamais à l'abri, là, et Liverpool l'a vraiment vu, ça. 5-2, 5 buts d'affilée, ça ne va plus. Puis là, pour un retour, je suis peu optimiste, mais j'étais peu optimiste en 2019 aussi, contre Barça, hein? Puis on se rappelle qu'est-ce qui est arrivé avec Divock Origi, entre autres. Mm-hmm. Fait que c'est toujours possible, mais écoute, le Barça était bien moins bon que le Real l'est en ce moment, tant qu'à moi, là, donc ça va être extrêmement difficile, je pense. Mm-hmm. Mais c'est Liverpool, c'est possible, puis mais c'est le Bernabeu aussi, fait que c'est pas vraiment possible, fait que je sais pas, mais c'est très peu probable selon moi. Là.
Ouais, puis écoute, si on revient rapidement. Très, très rapidement sur ce qui s'était passé en 2019. Écoute, c'est vrai que c'était un miracle parce qu'il faut se rappeler que Liverpool jouait sans Salah et Firmino dans cette rencontre. Donc déjà là le résultat est fou. Puis, sauf que, encore une fois, c'était Anfield. Donc, c'est vraiment la différence. C'est que là, alors que là, Liverpool doit se déplacer du côté de Madrid. Puis, écoute,
ça va être Madrid 3-0 à leur domicile.
À Ligue des Champions. C'est une grosse commande qui attend Liverpool. Mais moi l'inquiétude que j'ai, c'est vraiment c'est au niveau de la défense. Comme déjà Van Dijk, là, moi qui étais un grand fan de Van Dijk à la base, je trouve que Van Dijk a vraiment perdu son niveau de jeu depuis au moins 2 ans. Là. C'est vraiment ça que j'ai l'impression. Qu'est-ce qui s'est passé avec Van Dijk? C'est qu'il a peur d'aller au contact. Moi, c'est là que j'ai de la misère à comprendre. Moi, j'ai vraiment l'impression que depuis son fameux sa fameuse blessure quand il est rentré dans Pickford dans un match de 2020, je crois.
Ouais.
Depuis, il a peur d'aller au contact. Moi, c'est ça qui m'énerve un peu avec Virgil van Dijk, parce que c'est un des meilleurs défenseurs au monde quand il est à 100%. Mais là, non seulement il revenait de blessure, mais en plus de ça, il était peu efficace. J'avais l'impression qu'il évitait les duels. Puis écoute, en plus que tu jumelles avec Joe Gomez qui... Écoute, j'espère qu'au match retour, ça va être Konaté qui va être titulaire ou Matip. Là, parce que Gomez et Van Dijk, ça n'a jamais fonctionné. Là. Ça n'a juste jamais fonctionné là, depuis la nuit des temps. Là.
Je pense qu'il est de retour au jeu, Konaté, puis c'est une excellente nouvelle pour Liverpool. Là, mais ouais, Van Dijk, je suis d'accord, là, il a perdu son efficacité depuis un an et demi, 2 ans. Là. Donc, ouais, c'est triste à voir. Ça reste un très bon défenseur. Je pense, mais oui, je pense qu'il y a une peur avec toutes les récentes blessures des dernières années. La peur d'aller au contact vient probablement de là. Là. Il y a dans son inconscient, il y a un petit hic là, avec la peur de se blesser. Là, ça doit être ça. Puis c'est pas le premier joueur qu'on voit comme ça là, qui après plusieurs blessures, n'est plus le même vraiment. Là.
Non, c'est sûr. Puis écoute, on verra qu'est-ce qui va se passer pour la suite des choses, mais le Real Madrid, le Real Madrid est bien parti pour se qualifier encore de finale. Puis écoute, faut que je le mentionne parce que moi, c'est ce joueur-là, j'ai l'impression qu'il est immortel. Là. Mais Luka Modric, match sensationnel au milieu de terrain, complètement
bouffé. Ben oui, ben oui. Comme toujours.
Deuxième demi, là, je le regardais jouer, là, puis. Je me suis dit, OK, ben ce gars-là, il est rendu à presque 38 ans, puis comme il bat facilement un milieu de terrain à lui tout seul, alors que c'est un milieu de terrain de Liverpool, qui est quand même un milieu de terrain qui a perdu un peu de son niveau de jeu depuis quelques années, mais reste que c'est un excellent milieu de terrain. C'est un milieu de terrain qui d'une bonne équipe en Ligue des Champions. Puis Modric a été exceptionnel. Puis en plus que le Real Madrid jouait sans Tchouaméni. Moi, c'est là que je suis un peu inquiet pour Liverpool. Dès que Tchouaméni va revenir, c'est là qu'on va voir, on va m'arrêter de savoir si le Real Madrid redevient favori ou non. Parce que on le voyait, là, on voit avec Casemiro pour que enfin les gens se comprennent que Casemiro est un des meilleurs milieux défensifs au monde. Puis il est de nombreuses années.
Mais
on voit
défensif et qui est capable de produire de l'offensive quand même. Là, on voit déjà Manu. Là.
Ouais, c'est ça. Mais sauf que le problème, c'est qu'avec les gens de première ligue, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que Casemiro était autant fort, même à Madrid. Parce qu'il a toujours été fort là, depuis 6-7 ans, on savait que Casemiro était fort. Mais c'est juste qu'il était dans l'ombre de Modric ou d'un Toni Kroos. Donc, c'est ça qui arrive. Mais écoute, je voulais vraiment mentionner un match incroyable de Luka Modric. Puis évidemment, ben, Vinicius, qui, un peu comme Benzema le faisait l'an dernier, a été capable de relancer cette équipe-là. Puis ben, Karim aussi, qui a eu un grand match dans l'ensemble, a marqué un but chanceux, il faut dire, là, un but qui a dévié sur Gomez avant de battre Alisson. Puis écoute, très hâte de voir ce qui va se passer pour la suite des choses. Mais moi, je trouve que ça va être quand même... Moi, je pense que c'est quand même encore possible pour Liverpool. Et je vous
ah oui, c'est possible. Rien n'est jamais impossible.
Parce qu'écoutez, moi, j'ai vu Chelsea marquer 3 buts au Santiago Bernabéu pas plus tard que l'an dernier au match retour, alors qu'ils avaient perdu 3-1 du côté de Stamford Bridge. Donc, déjà là, c'est possible. Puis écoute, même le Real Madrid dans leur apogée en 2018.
C'était pas il y a 2 ans?
Chelsea, non, c'est l'an passé.
Non, c'était l'an passé. Ouais, encore des finales. Pas plus tard qu'en 2018, là, quand le Real Madrid était dans leurs 3 années consécutives où ils ont remporté une Ligue des Champions, ben, la Juventus, qui avait perdu 3-0 à domicile, avait réussi à remonter le Real Madrid au Bernabéu. Donc, moi, je pense que c'est encore possible, mais c'est sûr que la tâche s'annonce extrêmement ardue, puis on verra ce qui va se passer, mais je crois que ce match-là est loin d'être terminé. C'est juste que le Real Madrid, en ce moment, a l'ascension, puis écoutez, on va voir ce qui va se passer pour la suite des choses, mais ne comptez pas le Liverpool pour battre, je pense que c'est encore possible. Sans le côté fan.
Ça va être extrêmement difficile, mais oui, c'est sûr que rien n'est jamais joué.
Bon, là, les gars, on va parler également des autres rencontres. Il y avait une autre rencontre aussi qui était extrêmement intéressante, celle entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. Une rencontre qui s'est emmenée par la marque de 1-0. Encore une fois, c'est Kingsley Coman qui vient hanter le Paris Saint-Germain en marquant l'unique but sur un centre magnifique de M. Alfonso Davies. Donc,
oui.
Mesdames et messieurs, encore une fois, Fonzie qui est encore efficace et qui a été excellent. Malgré qu'il faut se rappeler qu'Alfonso Davies est embarqué seulement en deuxième mi-temps, pas joué en première mi-temps. Donc, c'est ça qui était assez particulier dans son cas. Le Bayern se retrouve avec un avantage de 1-0 pour le match retour qui va aller du côté de Munich. Est-ce que vous pensez que le Paris Saint-Germain, Neymar aussi va être absent pour le match retour, mais avec un Kylian Mbappé qui va être là à 100%, qui ne va pas seulement jouer 40 minutes, et Messi qui va être présent, et les autres joueurs, est-ce que vous pensez que le PSG peut battre le Bayern à Munich?
Oui. En fait, je pense que le PSG était déjà prêt à ce que Neymar soit absent, ça reste dans ses dates. Ils vont pouvoir pas complimenter, mais je perds le mot, là, mais ils vont pouvoir jouer sans lui assez facilement. Mais 1-0, ça aurait pu être très pire que ça. Donc je pense que c'est possible. Ça va être difficile, mais c'est possible. Surtout avec un Mbappé en pleine forme. S'ils peuvent limiter les dégâts en défensive, il y a des très bonnes chances.
Ah, Mbappé et Messi vont bien ensemble, notamment lors du dernier match qu'ils ont joué contre Marseille. Là, ils ont étrié Marseille 3-0. Le classique est allé clairement à leur avantage. Je pense que Messi et Mbappé n'ont pas besoin de Neymar présentement. Puis contre le Bayern, honnêtement, j'ai trouvé ce match un peu décevant. Là, je m'attendais à un gros choc entre les deux, mais on a eu seulement un but dans ce match-là. Puis c'est là qu'il mérite la victoire à 1-0. Mais il faut dire que le PSG, les 15-20 dernières minutes, là, étaient complètement... c'était eux, à leur tour, là, qui dominaient complètement le Bayern. Fait que là, pour le PSG, il faut une performance beaucoup plus aboutie qui dure de la première minute à la 90e. Parce que là, ils ont dominé seulement... On les a sentis dans le match seulement à partir des 20 dernières minutes environ. Là. Donc, si PSG est capable de reproduire leur performance des 20 dernières minutes dans toute la prochaine rencontre, je pense qu'ils vont sortir victorieux. Là.
Ben, tu sais, c'est à partir de quand que le PSG a commencé à mieux jouer, c'est quand Kylian est embarqué au 60e minute. Quand Mbappé est embarqué au 60e minute, ça a complètement changé l'allure du match pour le PSG. Puis écoute, Mbappé a quand même marqué deux buts qui ont été refusés là, à cause de deux hors-jeu. Mais reste que on le voit surtout depuis la Coupe du Monde que Kylian peut changer un match.
Je pense que là, il n'y a plus aucun doute dans l'esprit de personne là, que Kylian Mbappé va être le plus grand joueur de la prochaine génération, ou l'un des meilleurs joueurs de la prochaine génération, là, facilement.
Là. Ouais, fait que écoute, moi j'ai hâte de voir le match retour pour cette rencontre-là. Je suis d'accord avec toi, Lee, sur le fait que le match aller était très décevant. J'avais pas l'impression que c'était le Bayern Munich qui dominait. J'avais plus l'impression que le PSG passait à côté de leur match.
Ouais, mais.
Ils sont embarqués. Puis à la fin, ils ont eu des moments où ils sont passés proches de Kylian. Mais à part de ça, c'est vraiment un match très décevant pour le PSG, là, plus qu'une domination totale du Bayern.
Mais je veux me rectifier en disant que le Bayern dominait. Je veux dire qu'ils empêchaient le PSG d'installer leur style de jeu sans vraiment dominer. Ils faisaient juste en sorte que le PSG ne crée rien vraiment là. C'était plus ça, puis c'est ça qui a fait en sorte que le match était décevant.
Ouais, puis écoute, hâte de voir ce qui va se passer pour cette rencontre, pour ce match auto. Là, rapidement aussi, il y a eu d'autres rencontres, mais on va vraiment y aller très brièvement. Il y a l'AC Milan qui a battu Tottenham par la marque de 1-0 du côté de Milan grâce à un but d'Ibrahim Diaz. C'est sûr que Thomas était très content de cette victoire de l'AC Milan. En tant que hater numéro un de Tottenham. Mais on peut comprendre aussi Tottenham, c'est pas une grande équipe d'Europe. Là. Donc, il y a également eu un autre match qui est très intéressant. Celui entre Chelsea et le Borussia Dortmund. Raconte que c'est terminé par la... Ouais, c'est Dortmund qui va extrêmement bien, comme Ali vient de mentionner, qui a battu Chelsea à domicile par la marque de 1-0 grâce à un but même sensationnel de Karim Adeyemi, qui malheureusement, si je ne me trompe pas, va être absent pour le match retour à raison d'une blessure. Ça va être triste pour le Borussia Dortmund, mais j'aimerais préciser que honnêtement, c'était le meilleur match de Chelsea depuis les trois derniers mois, à mon avis. Mais malheureusement, même là, ils ont trouvé le moyen de perdre cette rencontre-là. Donc, c'est pour vous dire à quel point que ça va mal du côté de Chelsea. Match nul du côté ici de Leipzig. 1-1 entre Leipzig et Manchester City. Également aussi une victoire facile, disons-le, de Naples par la marque de 2-0 du côté de Francfort à l'extérieur. Match également extrêmement très intéressant, une victoire de l'Inter de Milan par la marque de 1-0 contre Porto. Match qui s'est terminé, une victoire de l'Inter de Milan qui s'est concrétisée à la 86e minute grâce à un but de Romelu Lukaku.
Oui, puis,
également... Ouais, il était temps pour Romelu. Et finalement, dernier match, victoire aussi, disons-le, assez facile de Benfica pour la marque de 2-0 face à Club Brugge à l'extérieur. Messieurs, avant qu'on parle de Bundesliga, est-ce qu'il y a une autre équipe qui vous a impressionné ou qui vous a déçu dans ces huitièmes de finale? Je vais commencer avec toi, Tom.
Non, pas vraiment. Je pense qu'on a fait le tour. Mais moi, quelque chose que je veux parler, c'est l'affrontement de l'Europa League. Barça, ouais, oui. Man U.
Oui,
écoute, quel match incroyable.
Quel match aller-retour, en fait. Là.
Ouais, aller-retour également. Les deux là, ça a été excellent. Le comeback de Man U à toute fin, c'est très bon.
Ah ouais, ouais. Écoute. Ben vas-y, Ali, vas-y, si t'avais quelque chose à rajouter, là.
Ben non, moi, je voulais juste aller sur un autre point, mais vas-y, si t'avais quelque chose à dire sur Manu.
Ouais, ben, je voulais juste dire rapidement sur cette rencontre-là que, le problème que j'ai avec le FC Barcelone, c'est que c'est une équipe qui, dans son championnat, est extrêmement fort. Peut-être pas assez d'adversité au final à Real Madrid, mais que dès qu'ils arrivent en Europe, ils ont de la difficulté. Puis ça, j'ai un peu de la misère à comprendre pourquoi le Barça a autant de difficultés en Europe. Est-ce que c'est un club qui a un manque d'expérience? Est-ce qu'ils sont malchanceux?
Leur défense, ils ont joué contre Manu qui va extrêmement bien puis qui se compare pas mal à eux en termes de qualité. Là. Donc, ça pouvait aller d'un bord ou de l'autre, je pense, cette rencontre-là. Oui, je pense qu'il y a certainement un manque d'expérience et peut-être de la malchance d'avoir pigé, d'avoir tombé contre Manu aussitôt. Mais c'est ça. T'sais, d'après moi, contre presque n'importe quelle autre équipe qui nous aurait pu tomber, ça aurait été une victoire. C'est juste que là, il tombe contre Manu. Fait que c'est un des deux grands de cette compétition qui devait tomber.
Malheureusement, c'est ça qui est arrivé pour le FC Barcelone. Puis écoute, Manchester United qui va très bien, man, depuis surtout le départ de Ronaldo, j'ai l'impression. Là.
Mm-hmm. Marcus Rashford.
Rashford est incroyable.
Est incroyable. Ouais.
Ouais, c'est ça. Qui, depuis le retour de la Coupe du Monde, est possiblement le meilleur marqueur d'Europe. Là. Donc, c'est
j'ai quand même. C'est pas les stats, mais ça se peut, ouais.
Ouais, c'est ça. Ben, écoute, le meilleur, dans cette période de temps, là, dans cette période
ouais, ouais, je pense que oui.
Si on parle sur la, sur la saison 2022-2023, c'est Erling Haaland, j'ai l'impression, là, mais.
Ouais.
Si tu retires cette période de temps.
Depuis la Coupe du Monde, là, ouais.
C'est possiblement le meilleur marqueur, meilleur buteur d'Europe. Malgré que il y a un joueur que je voulais parler rapidement. Puis écoute, moi, c'est peut-être cette équipe-là, il faudrait peut-être commencer à la prendre au sérieux. Écoute, Naples, qui non seulement domine en Italie, mais avec moi, un joueur que j'adore, le Nigérien Victor Osimhen, qui pour moi est un des meilleurs attaquants au monde. Cette équipe-là, j'ai vraiment l'impression qu'on peut se rendre peut-être pas jusqu'au bout, mais peut se rendre jusqu'à une demi-finale, voire peut-être finale de la Ligue des Champions cette saison. Je trouve que c'est l'équipe à surveiller dans cette compétition européenne. Eux qui surfent sur la Serie A depuis le début de la saison, là, cette équipe-là est absolument fantastique à avoir joué.
Ben écoute, honnêtement, comme tu dis, ils dominent en Serie A depuis le début de la saison en Champions League. Ça prend l'air de ralentir. Je pense. Mm-hmm. Puis, ils n'ont pas des gros joueurs. Genre, ils ont pas effectué des gros transferts cet été. Là. Ils ont cherché le géorgien que je ne suis pas capable de dire son nom.
Kvitchak Kvaratskhelia, man. C'est gars, là.
Lui, wow. Ouais. Ils ont cherché le coréen, là. Que j'ai oublié le nom de défenseur.
King Min-jae.
King Min-jae, ouais. Effectivement. Puis, écoute, ça a été. Pour pas grand chose, c'est deux des piliers de cette équipe-là. Donc, vraiment, une bonne business du côté de Napoli, vraiment. Donc, je pense qu'ils peuvent, comme tu as dit, tout, au moins une demi-finale facilement. C'est pas jusqu'au bout.
Wow. Moi, je suis amplement d'accord avec vous. Naples est tellement. J'irais même jusqu'à dire l'équipe la plus intéressante à avoir joué cette saison en avec Arsenal, mettons qu'on met Arsenal là-dedans pour faire plaisir à Tom. Là. Mais ouais, Naples est vraiment très le fun à avoir joué cette saison. Non seulement Kvaratskhelia, Osimhen, Kim Min-jae tiennent le fort, mais on a aussi une très belle rotation, un beau roulement. Tout le monde participe dans cette équipe-là. Je pense à Zambo Anguissa au milieu de terrain. Je pense à Giovanni Simeone, le fils du célèbre coach de l'Atlético Madrid. Donc, c'est voilà, c'est tout à fait. Je pense aussi que là, ils n'ont pas vraiment à se soucier de la Serie A parce que clairement, ils vont la gagner. Donc, ils peuvent encore plus se concentrer sur la Champions League. Donc, vraiment, ça va être une grande menace, moi, je pense, pour le reste de la compétition. Puis avant qu'on passe à la Bundesliga, d'où je voulais juste mentionner deux petites choses aussi, moi, qui ont retenu mon attention là, sur, sur les compétitions européennes. D'abord, en Europa League, il faut qu'on en parle. Le tour du chapeau d'Angel Di Maria. Qui était sensationnel contre Nantes. Là. Angel Di Maria, au PSG, avec Mbappé qui est arrivé, Messi qui est arrivé, Neymar qui était là aussi, Ben en fait, il a peut-être même pas joué avec Messi. Je suis plus trop sûr quand est-ce qu'il est parti. Là. Mais il y avait clairement plus de place pour lui au PSG. Et là, il part, il trouve la Juventus. Puis là, il est rendu à quoi? 35, 36 ans. On se dit, ah, c'est le déclin pour Di Maria. Mais il est vraiment une des raisons pour laquelle la Juve, ben là, ils ont perdu des points en raison de ce qu'on connaît. Là. On en a parlé dernièrement. Mais vraiment, pourquoi la Juve s'en tire du mieux qu'elle le peut? Il est une des pièces maîtresses de ça. Son tour du chapeau contre Nantes était magnifique. Donc, puis a connu un match final sensationnel aussi avec l'Argentine, il faut le rappeler. Donc, Di Maria n'est vraiment pas fini, messieurs. Alors ça, je voulais en parler. Puis moi, une équipe qui m'a déçu aussi en Champions League, c'est Manchester City. J'ai pas vu vraiment le match, là, mais 1-1 contre Leipzig, c'est pas censé se finir comme ça. Manchester City, avec la force de frappe qu'ils ont, ils sont censés battre Leipzig, qui ont une bonne équipe, il faut dire. Là, une coucou, bravo, c'est quand même une bonne équipe. Mais Manchester City doit battre Leipzig.
J'ai écouté le match, puis Leipzig a dominé la deuxième demi.
Mais c'est pas censé arriver contre City, tu sais, l'effectif, on parle des deux effectifs. Là.
C'est pas censé arriver, effectivement, mais vraiment un gros match de Leipzig. Grosse performance.
Et je tiens à saluer notre collègue Vincent Tardif qui avait parié pour une victoire de City et de Liverpool. Ça n'a pas bien marché.
Oh. Grand expert en football, notre grand chum Tardif. Là. C'est écoute, bon, ça arrive. Là. Moi, je vous dis, les boys, quand vous voulez parier avec précaution. Puis surtout, écoute, si vous n'êtes pas des grands experts, demandez de l'aide, demandez des conseils à des gens ouais. qui connaissent un peu
en
plus.
Même temps, en même temps, je veux dire, City contre Leipzig, tu paries sur City.
Ouais, normalement, c'est un pari qui est un peu plus facile. Mais en même
la cote pour Liverpool est très bonne.
C'est dangereux, là, t'es. Tu vois, malgré que j'adore les Liverpool, moi, je me suis dit que, écoute, si on regarde l'historique du Real, si on regarde l'historique des derniers affrontements entre Liverpool et le Real, c'était difficile de vraiment être certain de ta prédiction en donnant une victoire à Liverpool. Malgré qu'il joue à domicile, donc, regarde, il y a des choses qui arrivent, surtout que c'était bien parti. Mais faut juste parier avec précaution. C'est juste ce que je dis.
Ou pariez pas et gardez votre argent, hein.
Égale. Moi, c'est ça que je fais.
Moi, gardez votre argent, la gang.
Gardez votre argent.
Étudiant, là, c'est rough.
Ouais. Écoute, hashtag pauvre. Bref. bon, mais messieurs, on va parler de deux championnats pour finir l'épisode. D'abord, on va aller du côté de l'Allemagne en Bundesliga. C'est tellement serré en Bundesliga cette saison. C'est ça. Bon, on le savait, là. On le sait, le Bayern de Munich a remporté les 10 dernières saisons en Bundesliga. Et cette saison, écoute, se retrouve non seulement à égalité avec le Borussia Dortmund, mais en plus, il y a la belle histoire de l'Union Berlin. La fin d'histoire risque d'être extrêmement intéressante. Oli, est-ce que tu penses que le Bayern de Munich va réussir à conserver son titre qu'il a depuis 10 ans déjà, là?
Écoute, c'est une très, très bonne question, d'où je ne sais pas quoi te répondre, parce que le Bayern de Munich, c'est extrêmement difficile de parier contre eux. Je pense que là, le Nagelsmann, ça c'est pas... c'est un bon coach, loin de là de dire de moi qu'il ne l'est pas, mais a moins de succès que Hansi Flick par rapport... que dans les dernières années, là, Hansi Flick a mieux fait que lui tant qu'à moi. Mais puis peut-être que la perte de Lewandowski, la blessure de Mané, fait en sorte qu'en attaque, c'est un peu moins évident de mettre plusieurs buts que dans les saisons précédentes. Et Dortmund va extrêmement bien. Fait que j'ai envie de dire que Dortmund va gagner. J'ai envie de dire ça. C'est eux qui ont le plus de victoires. Hein. Ils ont deux victoires de plus que le Bayern. C'est tout simplement que Bayern a plus de matchs nuls. Donc, ouais. Mais je vais y aller avec Dortmund qui va finir par gagner parce qu'ils sont dans une très grande forme. Sébastien Haller est de retour. Il mérite tellement, Dortmund, là, honnêtement. Là. C'est vraiment difficile d'aller contre le Bayern, mais je vais y aller contre le Bayern puis je vais dire Dortmund.
Bien. Yeah. Toi, Tom, tu penses quoi de tout ce dénouement-là qui va arriver très bientôt?
Ben, écoute, ça va être tellement les situations à surveiller d'ici la fin de la saison. Il reste une douzaine de matchs encore. Donc, c'est loin d'être fini. Puis, comme Ali l'a dit, si tu veux aller contre le Bayern, ben, je veux tellement qu'il y ait du changement Surtout que Dortmund le mérite tellement. Haller, Marco Reus, Bellingham. C'est une bonne équipe. Et avec des belles histoires également. Et là, ce serait quoi? La première équipe en 11 ans qui autre que le Bayern qui remporte le titre. Ouais. Donc, ça ferait changement. Parce que, écoute, ça devient redondant à un moment donné. On ne se le cachera pas. Ouais, donc, écoute, Dortmund for the win.
C'est leur fenêtre d'opportunité.
Écoute, moi, malheureusement.
Ouais, surtout que Bellingham reste acquitté cet été. C'est ça. Donc, c'est pas mal. Maintenant ou jamais.
C'est maintenant ou jamais, quasiment. Là.
Ouais, Bellingham va quitter pour aller à Liverpool, mesdames et messieurs. C'est ça qui va arriver. Mais, moi, j'aimerais ça que ce soit soit Berlin ou Dortmund qui l'emporte, mais j'ai vraiment l'impression que le Bayern va réussir s'en sortir comme d'habitude. C'est ça que je redoute malheureusement pour la Bundesliga. Mais écoute, ça fait du bien de voir autant d'adversité dans cette ligue-là. Ouais. Ça fait du bien pour n'importe quelle ligue d'avoir non seulement de la concurrence, mais surtout d'avoir un équilibre, parce que c'est vraiment ça qui me manquait en Bundesliga là, depuis 11-12 ans, même 13 ans. Ça a juste été soit le Bayern ou Dortmund qui a remporté en 2011 et en 2012. Mais à part de ces deux équipes-là, là, depuis 2011, hein, ça a été deux équipes. Peter, on l'a vu également aussi en Serie A, que pendant 10 ans de temps, la Juventus avait remporté la Serie A.
Ouais. On voit du changement en Serie A, c'est fun.
Ouais, ça. Puis écoute, en France aussi, on a vu le PSG. Il y a eu le PSG qui a remporté plusieurs fois et
Lille-Monaco. Ouais.
Lille ou Monaco une fois. Pour chacune de ces équipes-là, de remporter la Ligue 1. Donc, ça fait du bien d'avoir un peu plus d'équilibre en Europe. Bon, messieurs, normalement, on aurait parlé de la Première Ligue, mais j'ai vraiment l'impression qu'on va manquer de temps. Puis,
ouais, écoute, on en a parlé au début un peu, là, on l'a dit, son top. Là.
Fait que Thomas, à moins qu'on te laisse ton 2 minutes de gloire pour parler d'Arsenal.
Ah non, écoute, Arsenal va être encore au top dans le prochain épisode. Donc, on en parlera au prochain
épisode. On en parlera au prochain épisode. Puis c'est ça qui conclut, en fait, cet épisode de Jason Balleron, Olivier Prince-Grelot, Thomas Lafont. Merci beaucoup d'être venu. Ça a vraiment été le fun. Ben
yes, oui. Yes, très le fun. Merci, Dou. Et surveillez Liverpool. On ne sait jamais pour la Premier League.
Mm-hmm. Écoute, il reste beaucoup d'action dans le monde du football. Le CF qui continue sa saison CF, MLS. Oui,
bien sûr.
Également, il reste une grande partie de la Ligue des Champions. Il y a la fin de saison qui arrive aussi en Europe. Écoute, on a quand même droit à une saison assez unique avec une Coupe du Monde en plein milieu de la saison. Donc, la saison est loin d'être terminée. Donc, restez branchés. Puis, écoutez, sur ce, je suis Doyle Ibrahim et on se voit très bientôt pour un autre épisode de Jason Balleron. Salut tout le monde.